quand est-ce que nous pourrons rouvrir? Quand est-ce que l'activité économique pourra reprendre durablement? Difficile, compte tenu des incertitudes, de répondre à ces questions de manière précise. Ce sur quoi je m'engage avec certitude, c'est que nous maintiendrons nos dispositifs de soutien aussi longtemps que cela sera nécessaire.
Aussi longtemps que cela sera nécessaire, jusqu'à la fin de la pandémie et même au-delà. À la conférence rituelle du jeudi, Jean Castex a voulu rassurer. C'était la petite musique, hein, même plutôt la grosse caisse. Le quoi qu'il en coûte continuera le temps qu'il faudra. Eh bien ça, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Des milliards d'aides pour éviter des milliers de faillites, en tout cas pour les hôteliers, les restaurateurs, les salles de sport, les organisateurs de mariages, les éleveurs de pintades. Toute cette France qui, depuis mars, n'a pas vraiment déconfiné. On garde la perfusion, mais jusqu'à quand on n'a pas de calendrier? En septembre, le gouvernement voulait nous parler de relance. En décembre, il commençait même, souvenez-vous, à évoquer le rétablissement des comptes publics. Raté. Le virus et ses mutants sont les seuls maîtres des horloges. Et depuis jeudi, eh bien, des retards de livraison pour les vaccins, des appels de plus en plus nombreux de scientifiques à se reconfiner maintenant. Le calendrier, il semble vouloir continuer à glisser.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Allez, bienvenue, c'est le Mayeco. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h et toute l'équipe vous salue. Juliette Gou, la réalisatrice, Valentin Pérez, l'attaché de production, et à la technique, Serge Viguier. Les débatteurs du samedi, ils sont là aussi. Christian Chavagneux d'Alternatives économiques. Bonjour Christian.
Bonjour à tous.
Et Laurent Bigorne de l'Institut Montaigne. Bonjour Laurent.
Bonjour.
On va pas parler de virus ce matin, on va essayer de parler un petit peu d'autre chose. Notre sujet, c'est ce veto clair et net de l'État, cette semaine, à un rachat de Carrefour par un groupe canadien, Couche-Tard. On va essayer d'en savoir plus sur Couche-Tard. Couche-Tard qui aurait renoncé à ce rachat, nous dit Bloomberg, ce matin. Alors, est-ce que c'est du protectionnisme? Et si oui, est-ce que c'est du protectionnisme bien ou mal placé? Laurent, Christian, on se retrouve pour le débat dans une poignée de secondes. Au menu également, eh bien, nous allons parler voitures, de plus en plus électriques, de plus en plus intelligentes. Le secteur automobile, il est en train de vivre une révolution. Faut-il avoir peur des voitures électriques made in China en Europe? Vous entendrez le reportage d'Anaël Verzo. Et puis notre invité, c'est le président de Renault. Renault vient de présenter sa nouvelle stratégie pour sortir d'années très compliquées. Jean-Dominique Senard, un homme qui parle peu, sera avec nous vers 9h45. Et enfin, toutes vos questions à Madame Vie au boulot. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Sandrine, on a des questions de salariés qui s'interrogent, eux, sur les conséquences du couvre-feu à 18h, c'est ça?
Et oui, beaucoup de questions sur le couvre-feu à 18h. L'employeur peut-il changer mes horaires matin, midi et soir et le dimanche?
Ah oui, et le dimanche, bien sûr. Les réponses de Sandrine Foulon à vos questions, ce sera juste avant 10h. Mais d'abord, les débatteurs... Mon supermarché est-il, oui ou non, un site stratégique? On se posait pas vraiment les questions. Ça, si ça vous fait rire, Christian, ça marche bien. Allez, on ne se posait pas la question. Jusqu'à cette affaire, Carrefour, l'État a décidé que chez Carrefour, c'est lui qui conduit le caddie.
Carrefour, le distributeur français, est approché par Couche-Tard. Alors Couche-Tard, c'est un distributeur québécois qui est présent, très présent, en Amérique du Nord. Mais qu'est-ce qui se trame d'abord entre les deux groupes?
Ce qu'on sait pour le moment, c'est que Couche-Tard offre 20 euros par action de Carrefour. Ce serait payé en majorité en espèces. Deux très grandes entreprises stratégiques sur les deux continents.
Carrefour, c'est un chaînon essentiel.
Bruno Le Maire.
Dans la sécurité alimentaire à laquelle je suis viscéralement attaché comme ministre de l'économie et comme ancien ministre de l'Agriculture. Ce qui est en jeu, c'est la souveraineté alimentaire des Français. Donc de ce point de vue-là, l'idée que Carrefour puisse être racheté par un concurrent étranger, a priori, je ne suis pas favorable à cette opération.
Bruno Le Maire, j'invite à être cohérent. La souveraineté alimentaire, il y a aussi le CETA, vous savez, cet accord entre le Canada et puis l'Europe.
Bruno Retailleau.
Que je trouve, moi, une atteinte à notre souveraineté alimentaire.
Sénateur, président du groupe Les Républicains.
Les députés En Marche l'ont voté, de même que, autre incohérence, je me suis battu pour que les chantiers de l'Atlantique restent français. Et Bruno Le Maire voulait les vendre à Fincantieri, un Italien. Donc vous voyez, il y a deux poids, deux mesures.
Carrefour, c'est le premier employeur français.
Elisabeth Borne.
Ils vont embaucher cette année 15 000 jeunes.
Lyon, ministre du Travail.
La stratégie de Carrefour qui est de faire travailler les producteurs locaux, les agriculteurs locaux, c'est effectivement quelque chose dont on a pu voir que c'était important dans la crise sanitaire. Ben moi, je suis favorable à ce qu'il n'y ait pas effectivement de remise en cause de l'actionnariat actuel de Carrefour et qu'il puisse poursuivre sa stratégie.
Il y a une espèce de contradiction dans la classe politique française qui consiste à venir régulièrement nous commenter l'attractivité du pays.
Jean-Marc Daniel.
Il se félicitait que des gens viennent investir en France et dès qu'ils arrivent pour investir effectivement en France, dire « Ah non mais pas vous et pas ça ».
Professeur d'économie à l'ESCP Europe.
Ou bien on est attractif ou on l'est pas. Si on est attractif, on laisse fonctionner effectivement la dynamique de marché, la dynamique économique.
Ronan Blanc.
S'il y a quelque chose, quand on est à peu près sûr post-opération, c'est que des synergies, a priori, il y en aura zéro entre les deux groupes. Donc voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est que voilà, c'est une offre amicale.
Analyste pour la société de gestion financière, Arbevel.
Mais cette offre à 20 euros, faut se souvenir quand même, à Carrefour, ça allait 79 euros au début des années 2000. Hein. Même à 20 euros, c'est pas cher payé.
Alors, on va faire le point, Laurent Bigorne, sur cette offre qui est arrivée par un Canadien. Il faut que vous nous rappeliez un peu les choses qui s'est passé cette semaine. Une offre d'un Canadien sur Carrefour.
Alors, il faut, à mon avis, même se remettre un tout petit peu avant.
Allez-y.
Dans la presse, cette semaine, on nous dit perdre Carrefour, parce qu'on emploie ces mots, c'est comme pour les Suédois, par exemple, perdre Ikea. Pourquoi ? Parce que Carrefour, c'est à la fois un géant de l'économie française, et en même temps, ça fait partie du patrimoine national, parce que ça a été créé en 59, parce que Carrefour a inventé l'hypermarché, parce que Carrefour, au début des années 2000, à l'époque, j'allais dire, des temps meilleurs, était numéro 2 mondial de la distribution et a été présent dans de très nombreux pays, où il est encore aujourd'hui pour certains, et il s'est retiré pour d'autres. Et c'est enfin, économiquement, une entité économique qui pèse 80 milliards de chiffre d'affaires, une capitalisation boursière de 12 milliards. L'offre des Canadiens serait située autour de 20, d'après ce qu'on a pu comprendre, mais avec un tout petit résultat d'1,3 milliard, donc un sujet qui touche toute la grande distribution, qui est celui de la rentabilité. Alors avec ses 105 000 salariés en France, aujourd'hui Carrefour a perdu de son lustre, hein, et il a été attaqué par à la fois de nouvelles formes de commerce, mais aussi par ses concurrents, notamment Leclerc. Et ce qui s'est passé, qui est très très patent tout au long de la décennie qui vient de s'écouler, et même depuis 2000, c'est que avec l'expansion internationale, les capitaux ont manqué pour réinvestir dans les magasins, et puis les consommateurs se sont détournés de l'hypermarché au profit à la fois bien de magasins de proximité et de commerce en ligne. Depuis 4 ans, Alexandre Bompard essaye de faire repartir le modèle.
Ouais.
Exactement, le nouveau PDG avec plus de bio, un recentrage sur l'alimentation, un retour vers les valeurs du discount, et puis une croyance dans le modèle omnicanal, les très grandes surfaces, les moyennes surfaces, les petits magasins, le e-commerce, avec des choses d'ailleurs, on dira peut-être tout à l'heure, qui ont pu plutôt bien marché ces derniers mois. Arrive là-dessus une offre effectivement canadienne d'un groupe qu'on connaît pas bien, mais qui en réalité est une offre qui paraît à peu près normale et rationnelle économiquement, venant d'un pays qui est un pays avec lequel on a des relations. Il s'agit pas d'un fonds de pension, il s'agit pas d'un actionnaire chinois ou d'un actionnaire qui a envie de, j'allais dire, démanteler l'entreprise, qui n'aurait aucun sens économique.
Alors jusqu'à présent, peut-être que pour nos auditeurs, ça a l'air d'une histoire juste de capitalisme, Christian Chavagneux. Est-ce que ça doit intéresser les auditeurs consommateurs le samedi matin à 9h21?
Laurent l'a dit, c'est quand même Carrefour, une entreprise qui est le premier employeur privé, 20% de distribution alimentaire. Laurent dit, oh, ça fait un petit milliard de profit. Attendez, ça fait un peu plus d'un milliard de profit en 2019, sûrement plus en 2020. C'est pas un petit acteur de rien du tout. Laurent a eu raison de souligner que c'est une entreprise qui a connu beaucoup de difficultés, mais qui semble au moins conjoncturellement aller beaucoup mieux. Donc avant de la laisser racheter par un investisseur étranger qui vienne de Chine ou du Québec, moi je pense que ça valait le coup de regarder d'un peu plus près sur le plan politique si on laisse faire ou pas.
Et donc justement, sur le plan politique, là, Bercy a été net.
Sur le plan politique, Bercy a été net sans connaître le dossier, ce qui est toujours plus facile.
Oh.
Le ministre de l'économie s'est prononcé mercredi sur la base d'un dossier qu'il connaissait pas bien, puisque par définition, les seuls à le connaître, c'était les Québécois et les gens de Carrefour, en nous expliquant que on est là sur de la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, ça vaut pour la filière protéinique. Là, on comprend, il y a un déficit de protéines, il faut en importer, il y a une question de souveraineté.
Parce qu'on ne produit pas, oui.
Exactement. S'agissant de Carrefour, l'argument paraît un peu spécieux, pardon.
Christian Chavagneux, en effet, Bruno Le Maire, dont Laurent estime qu'il ne connaissait pas le dossier, je ne sais pas si vous partagez le jugement, Bruno Le Maire dit on ne peut pas laisser racheter Carrefour parce que, en effet, c'est un chaînon essentiel de notre souveraineté alimentaire.
Alors, je pense qu'il a raison de dire qu'il ne faut pas laisser faire, mais je pense qu'il a tort de dire que c'est simplement pour une question de souveraineté alimentaire. Bien évidemment, Couche-Tard ne va pas remplacer les produits français qu'on trouve chez Carrefour, enfin des produits québécois.
Couche-Tard, oui, Couche-Tard, c'est le nom de cet acteur dont on n'a pas encore parlé
d'ailleurs. Je vais, je vais, Je vais vous le décrire. Mais le jour où l'entreprise Couche-Tard tourne mal, moi je suis sûr que ce sera plutôt Carrefour qui sera sacrifié en premier. Donc c'est en cela que la souveraineté alimentaire française, quand on représente 20% de la distribution des aliments en France, c'est en cela que ça pourrait être un problème. Mais c'est pas le vrai problème. Moi, le vrai problème que ça me pose, c'est justement ce potentiel racheteur québécois. Qui sait ? Il fait deux business, des supérettes de proximité et des stations essence avec petits magasins de la station essence. La station essence elle-même n'est pas très rentable, mais avec les petits magasins, ça fait 70% de son business et c'est ce qui assure sa rentabilité. Entre nous soit dit, la vente d'essence et les petits magasins avec la vente d'essence, c'est pas un secteur d'avenir avec la voiture électrique, comme on va le voir dans le reportage tout à l'heure. Depuis 2004, ce Québécois a racheté 60 entreprises. 60, c'est absolument incroyable. Mais toujours dans son secteur, pas dans la distribution alimentaire de centre-ville, il a aucune compétence particulière à apporter à Carrefour. Donc l'opération me semble plus liée à des connotations financières plutôt qu'industrielles. Et là, moi j'ai trouvé sur Internet des petites choses intéressantes. Alain Bouchard, qui est le propriétaire fondateur de Couche-Tard, c'est la 13e fortune canadienne et son patrimoine a augmenté de 45% en 2020. Comment fait ce monsieur pour avoir une société qui affiche des taux de rentabilité absolument incroyables depuis une dizaine d'années, alors que les économies fluctuent. Les 5 plus gros salaires ont augmenté de 8% chez Couche-Tard en 2019, pendant que le fondateur se répand dans les médias pour dire qu'augmenter le salaire minimum, ce serait une catastrophe. Donc on voit qu'il y a une stratégie, j'ai envie de dire, à la Amazon, un peu prédatrice, du côté salarial. Les gros salaires sont bien servis, les petits salaires, faut rien donner. Et surtout, lorsque vous faites une petite recherche sur Internet, vous apercevez d'un côté que les dividendes ont été multipliés par plus de 8 depuis 2011, donc on voit bien que c'est une entreprise financière avant d'être une entreprise industrielle ou de distribution de services. Et surtout, l'entreprise, comme on dit, nos amis de Radio-Canada, s'est magasinée des paradis fiscaux. Hein, c'est-à-dire que au Luxembourg.
Voilà nos spécialistes des paradis fiscaux.
À l'île de Mans, Luxembourg, en fait, on trouve deux filiales. Une filiale générale et l'autre qui s'appelle Couche-Tard Brands and Financing. Financing, ça veut dire sûrement que c'est une filiale où on fait des prêts aux autres filiales, ce qui va permettre de déduire les remboursements d'emprunt de la base taxable. C'est une technique traditionnelle d'évasion fiscale, d'évitement fiscal, on va dire, des multinationales. Et Brands, ça veut sûrement dire que la propriété intellectuelle est logée au Luxembourg, ce qui fait que là aussi, vous allez payer l'utilisation de propriété intellectuelle qui va encore vous faire baisser la base taxable. En fait, il y a un vrai risque fiscal, de fuite fiscale des futurs profits de Carrefour vers le Luxembourg. Et ça, moi, ça me pose un gros problème.
Alors, Laurent, visiblement, ce qui pose problème à Christian, c'est Couche-Tard tout court. Plus
exactement.
Que...
Ouais. Oui, moi, je ne suis pas un expert de Couche-Tard. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a à peu près 2000 magasins en Europe, en Scandinavie, dans les Pays-Bas, plus au nord de l'Europe donc. Et je n'ai pas le sentiment que ça ait posé de problème ni aux consommateurs, ni aux employés.
Mais peut-être au fisc.
Comment ?
Peut-être au fisc.
Oui, on va dire que ça, c'est, j'allais dire, presque un procès d'intention, Christian, parce qu'à date, vous n'en savez rien. Le Canadien, il était prêt, manifestement, d'après ce que dit Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, à donner des garanties. Maintien de l'emploi chez Carrefour pendant 2 ans. Des investissements de 3 milliards sur 3 ans, que Carrefour n'aura pas les moyens de faire.
Pourquoi, parce que
le modèle économique de Carrefour, aujourd'hui, c'est 80 milliards de chiffre d'affaires, ce que je disais tout à l'heure, des profits d'un milliard, quant à réinvestir 1 milliard par an sur 3 ans dans les hyper, ou dans les magasins,
oui, il y a un marché qui s'appelle les banques ou les marchés financiers. Oui, enfin, Carrefour n'est pas très très endetté.
C'est en tout cas un groupe qui a déjà énormément réinvesti. Quant à réinvestir 3 milliards dans les années qui viennent, on voit pas bien comment. Le maintien du siège en France et la double cotation du groupe à la fois au Québec et à Paris. Donc je pense qu'il y avait un certain nombre d'arguments qui étaient sur la table. Je voudrais revenir un instant, Christian, sur cette affaire de souveraineté alimentaire. Vous nous dites, au fond, Carrefour, c'est très gros, donc si demain il y a un problème, Carrefour sera sacrifié. Il y a 9 enseignes aujourd'hui qui sont à peu près toutes dans les mêmes parts de marché en France. Il y a Leclerc, il y a Intermarché, il y a Système U, il y a Carrefour et tous les autres. Je ne vois pas bien en quoi la souveraineté alimentaire des Français serait menacée. Carrefour, qui est en Espagne, n'a jamais privé les Espagnols de nourriture. Les Allemands Lidl et Aldi, qui sont en France, se sont jamais mal conduits. Il y a déjà des actionnaires étrangers chez Carrefour. Il y a des Brésiliens. Il y en a chez Casino. Il y a un chèque. Donc je ne vois pas bien comment l'argument de la souveraineté alimentaire trouve une réalité.
Si, parce que 20% de la distribution alimentaire française, le jour où Couche-Tard a des problèmes, et là, Couche-Tard est rentré dans une vague d'expansion. Enfin, je l'ai dit, 60 rachats d'entreprises sur son secteur. Là, ils sont en Asie. Maintenant, ils sont en Europe. Ils veulent grossir, je pense. Ça fait un peu la grenouille qui veut devenir plus gros que le bœuf. À mon avis, dans les années qui viennent, Couche-Tard aura des problèmes financiers. Et le jour où il y a des problèmes financiers, vous sacrifiez d'abord les entreprises qui sont à l'extérieur de votre pays.
Alors, si on avance, en tout cas, on ne vous mettra pas d'accord sur est-ce qu'on a assez avec les autres distributeurs et est-ce que Carrefour, dans ce cas-là, nous manquera.
Oui, mais un cran plus loin. Si demain Carrefour est racheté par un Français, que fera le Français ? Eh bien, il cherchera des synergies et il fera des coupes claires dans les effectifs de Carrefour.
C'est pour ça que, la concurrence ne le permettront pas.
Mais enfin, on n'en sait rien puisque c'est pas 40%, c'est 20% de part de marché comme vous l'avez justement signifié.
Si c'est Leclerc ou Système U, ça en passera à 35, 40 et là ce sera plus difficile sur le plan de la concurrence.
Ça sera peut-être un plus petit.
Alors la question c'est est-ce que Carrefour peut continuer tout seul là si vous en arrivez là? Est-ce que vous voyez un souci? Est-ce qu'on a trop de distributeurs? Est-ce que cette idée de rapprocher, de consolidation du marché, elle s'impose? Est-ce qu'aujourd'hui nos distributeurs vont mal? Laurent Bigorgne.
Ouais. Bon, je l'ai dit, il y a une expansion internationale coûteuse. On a un format roi, celui de l'hypermarché, qui a été inventé en France, qui est attaqué par quantité de nouveaux modèles de consommation. Et puis surtout, le consommateur moyen n'existe plus. Le consommateur moyen, il se méfie des produits industriels, il utilise Yuka aujourd'hui dans les rayons, il fragmente ses courses, les magasins bio, les vraquiers, le e-commerce, l'occasion. Donc il y a un vrai défi à un modèle de grande distribution en France qui s'est fait au bénéfice du client, c'est-à-dire qu'il est industriel, il est allé baisser les coûts, baisser les prix, et en même temps il arrive aujourd'hui à ses limites.
Christian, vous êtes d'accord?
Oui, je suis tout à fait d'accord. L'hypermarché, c'était la locomotive du secteur, maintenant c'est le boulet. Laurent l'a bien dit, les circuits courts, les magasins bio, le hard discount, le e-commerce, c'est des activités où on fait pas beaucoup de marge et on gagne de l'argent sur les volumes. Mmh. Quand les volumes se fragmentent comme ça avec beaucoup d'offres, vous ferez moins de volume, moins de rentabilité. Donc oui, mais c'est un problème pour tout le monde, pas que pour Carrefour.
Bon, on arrive à cette question. Donc là, on a donc eu un veto de Bercy. On vous mettra pas d'accord sur le bien fondé, mais en tout cas, est-ce qu'on appelle ça du protectionnisme? Par quels moyens il voulait? Est-ce qu'il le fait souvent finalement l'État? On va faire un peu de pédagogie là-dessus.
Non, il ne fait pas souvent. En fait, il y a un dispositif qui c'est au milieu des années 2000 qu'on a créé ce dispositif de protection. C'est le gouvernement Villepin. C'est ni une question ni de gauche ni de droite. Hein. Montebourg a renforcé en 2014, vous en rappelez, au moment d'Alstom, et ça a été renforcé en 2018 et consolidé dans la loi Pacte de 2020. Et en réalité, le seul vrai veto qui ait jamais été donné par le gouvernement, c'est tout récent. Ça indiquait un changement de doctrine autour d'une petite entreprise dont on a beaucoup parlé, qui fait des lunettes de vision nocturne et tactique pour les soldats, oui, qui est Photonis. Maintenant, ce qui est évidemment très surprenant, c'est pourquoi est-ce que Couche-Tard peut pas venir s'investir dans Carrefour, alors que nous, on peut aller s'investir dans Bombardier au Canada. C'est ça qui va être très difficile à expliquer. Ou que LVMH peut aller s'investir dans Tiffany. Ouais. C'est Alstom, effectivement, pour mauvaise année, et Airbus également. Donc, si vous voulez, il y a un moment où les Français ne peuvent pas penser que les choses ne vont fonctionner que dans un sens.
Non, mais tous les pays ont mis en place des dispositifs de contrôle des investissements étrangers. Les États-Unis, comme la Chine, comme l'Europe. Il n'y a rien de spécifique au capitalisme
sur des actifs stratégiques. Actifs très stratégiques dans l'énergie, dans l'eau, dans la distribution alimentaire.
Bah, la loi a fait la distinction des secteurs qui étaient stratégiques ou pas. Et Laurent l'a rappelé, dans la loi Pacte, il y a marqué que les secteurs de la production, la transformation et la distribution alimentaire font partie des secteurs stratégiques. Et c'est pas... Quand vous regardez... la France n'est pas du tout à côté de la plaque par rapport au reste du monde. Lorsque vous regardez cette grande institution internationale qui s'appelle la CNUSED et qui fait tous les ans un rapport qui s'appelle un rapport annuel sur les investissements dans le monde, ils cherchent tous les ans à mesurer les changements de politique vis-à-vis des investisseurs étrangers. Dans les changements, qu'est-ce qui permet de libéraliser plus ou qu'est-ce qui va dans le sens de je restreins? Eh bien, au début des années 2000, 12% des politiques qui changeaient vis-à-vis des investissements étrangers, c'était pour restreindre. Aujourd'hui, en moyenne, sur 2018-2019, c'est 24%, un quart. Et même spécifiquement, en 2020, 14 pays, dont la France, ont pris des mesures d'investissement concernant le secteur alimentaire en général, dont plus 70% étaient de nature restrictive. Donc la France, elle est dans le jeu mondial, elle veut
du
pas...
Du protectionnisme bien placé, c'est ça que vous dites?
Oui, c'est même pas du protectionnisme, c'est de l'organisation stratégique, faut pas être le dernier naïf de la classe.
Il ne faut aucune naïveté, je pense qu'on a aujourd'hui des outils pour montrer qu'on n'est pas naïf. Ensuite, il faut se rappeler que la prospérité des grandes entreprises françaises, elle s'est aussi faite via des acquisitions. Là, ce qui me frappe donc à présent, c'est qu'on n'est pas face à une opération hostile. On n'est pas dans un cas où l'État est actionnaire, le moins du monde. On est dans une situation où par ailleurs, les Français cherchent à attirer des investissements étrangers, donc là, bonjour la publicité. Et par ailleurs, on porte atteinte à la valeur de groupe. On estime en moyenne que ce protectionnisme induit en France, il fait que les entreprises françaises valent moins à business et taille égale que les Britanniques ou les Américaines.
Bah, on verra,
ce qui objectivement n'est pas une bonne nouvelle.
Tous les pays font ça. Donc
On ne vous mettra pas d'accord.
Non.
Pas ce matin. Laurent Bigorgne et Christian Chavagnier. Bon, l'économie comme elle se passe ailleurs, eh bien, ce samedi, si vous voulez bien, je vous emmène aux États-Unis.
Tonight, I'll lay out my first step, the American Rescue Plan.
Le futur, ben arrêtez de discuter de Carrefour. Le futur président américain qu'on vient d'entendre, Joe Biden, c'était jeudi. Et il dit, c'est son premier pas, a rescue plan. Joe Biden a présenté un nouveau plan de relance d'urgence, un moment très attendu dans un pays qui vit sa pire crise depuis la Grande Dépression, les années 30. Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour Alexandra.
Ce plan de Joe Biden, Grégory, il est très ambitieux, 1900 milliards de dollars. L'idée centrale, c'est de faire repartir la consommation et donc d'aider les ménages.
Oui, vous savez que les Américains qui gagnent moins de 100 000 dollars par an ont reçu en tout début d'année un second chèque de la part du Trésor américain de 600 dollars par personne. Eh bien là, Biden promet de leur verser à nouveau 1400 dollars par chèque, virement ou même parfois l'envoi d'une carte de crédit personnalisée. Le président élu veut aussi augmenter le salaire minimum fédéral à 15 dollars de l'heure. Il est aujourd'hui à 7,25 dollars. Et puis il promet la prolongation des aides au chômage. Là, avec toutes ces mesures, on est vraiment dans de l'aide d'urgence qu'il faudra évidemment faire valider par le Congrès. Biden veut aussi relancer la production industrielle et ça, ce sera en partie grâce à son plan de transition énergétique qu'il n'a pas encore détaillé. Mais le démocrate promet des millions d'emplois dans le secteur des énergies renouvelables. Enfin, il y a évidemment un gros volet Covid dans ce plan présenté cette semaine. 415 milliards de dollars parce que la future administration sait bien que le rythme de la reprise économique va dépendre aussi du rythme des vaccinations et du recul de la maladie.
Et ce qui est saillant, Grégory, c'est qu'au cœur de ces nouvelles aides économiques aux États-Unis, il y a une priorité donnée aux femmes et aux mères de famille.
Parce que incontestablement, les femmes sont les premières victimes de cette crise. D'abord, elles occupent souvent aux États-Unis des emplois dans des secteurs totalement sinistrés, comme l'hôtellerie ou la restauration. Et puis souvent, ce sont elles qui se sont arrêtées de travailler pour garder les enfants à cause des écoles fermées. À Washington DC, par exemple, l'école primaire de ma fille est fermée depuis mars dernier, bientôt un an. Dans ce nouveau plan d'aide, il y a aussi 15 milliards de dollars consacrés à la garde d'enfants. Je ne sais pas si vous savez, mais une bonne crèche ici dans la capitale, par exemple, c'est 2000 dollars par mois, 24 000 dollars par an. Le plan Biden prévoit enfin 170 milliards d'aides aux écoles publiques afin qu'elles puissent rouvrir dans de bonnes conditions et ce malgré la pandémie. Sur les plans économiques, sanitaires et même politiques, avec les événements du Capitole de la semaine passée, la présidence de Joe Biden démarre dans un contexte extrêmement compliqué.
Grégory Phillips avec nous depuis Washington. Merci à vous. Merci aux débatteurs Christian Chavagneux et Laurent Bigorgne. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Dans 10 minutes, l'invité du Magéco, c'est le président de Renault, Jean-Dominique Senard. On va parler de la nouvelle stratégie du Losange pour se relancer. On va parler des bouleversements que vit le secteur automobile. D'ailleurs, tenez, on sort du studio. On va suivre Anaëlle Verzo, notre reporter. Pour tout dire, on lui avait commandé à Anaëlle un reportage sur la voiture électrique. On ne s'attendait donc pas à la retrouver là, à cet endroit. Vous allez comprendre.
Je me trouve à la FNAC à Paris, à Ternes. Et la FNAC, eh bien, expose un modèle de Citroën Ami. C'est une petite voiture qui coûte 7300 euros TTC. Qui est donc vendu ici.
Je suis Olivier Garcia et je suis le directeur des produits pour le groupe Fnac Darty. On a été approché par Citroën pour le lancement de ce produit, au départ plutôt pour vocation publicitaire. Puis on s'est dit, mais non, c'est absolument parfait dans l'ADN de ce qu'on fait tous les jours. C'est un produit innovant, nouveau, jamais vu, hyper accessible. Et pour Citroën, c'était aussi un moyen de se rapprocher des centres-villes, donc dans des situations très urbaines, si je compare à un concessionnaire plus traditionnel qui est généralement en dehors des villes. Et puis la deuxième chose, c'est que le trafic, notamment sur la population jeune, est beaucoup plus intéressant dans un magasin comme le nôtre que là aussi un concessionnaire traditionnel.
Je ne sais pas si vous savez, mais Leclerc s'apprête à mettre en location des Dacia Spring.
En réalité, la mobilité électrique, c'est vraiment un marché en devenir en termes de croissance d'abord. Et donc effectivement, vous avez des nouvelles façons de commercialiser ce type de véhicule. On a été les premiers à un peu l'introduire, et sur digital et en magasin. Et puis, il y a des initiatives de Cdiscount que j'ai vues il y a quelques jours, de Leclerc, de Monoprix. Vous savez, nous, on essaye, on ne deviendra pas concessionnaire, on n'aura pas 50, 60, 70 véhicules. Par contre, on ne s'interdit pas d'avoir 2, 3, 4 véhicules supplémentaires.
Et des voitures plus imposantes ou...
En fait, vous vous doutez bien que les initiatives qu'on a autour de la mobilité urbaine en ce moment, on est très regardé par l'industrie. Alors évidemment, le côté français nous intéresse plutôt pas mal. Maintenant, il y a aussi des solutions asiatiques qui peuvent être hyper intéressantes. Donc on ne s'interdit pas de travailler avec d'autres personnes que des Français.
Alors pour l'instant, dans cette Fnac, le petit modèle, la grille orange qui est présentée, c'est une voiturette électrique sans permis. Mais ce qu'on comprend, c'est que bientôt le rayon disque devrait déménager pour faire de la place à des vraies voitures, hein, et pas forcément du Made in France. Ça s'appelle du marketing, mais ça dit plusieurs choses. Ça dit d'abord que la voiture n'est plus seulement un véhicule, ça devient un produit innovant. Ensuite, l'électrique accélère en Europe, ça prend des parts de marché. Et puis enfin, dans les mois qui viennent, ce qui pourra encore nous surprendre, c'est l'arrivée des voitures fabriquées en Chine, même si ça ne se verra pas toujours au premier coup d'œil. Faut-il redouter une offensive européenne du Made in China ? Notre reporter Anaëlle Verzo cherche la réponse.
Voilà, je me trouve à Paris, avenue de la République, et je me trouve juste devant un showroom de MG. Voilà, je vois sur la vitre, il est écrit 100% électrique. Voilà, et donc là, je lis la petite pancarte, c'est...
Donc là, vous avez le MG ZSEV 100% électrique, en finition luxury, donc à 31 990 euros. Hors bonus écologique et prime à la conversion.
Je m'appelle Serge Cometti, je suis le directeur de Car East France. C'est une entreprise qu'on a créée début 2020 pour commercialiser des véhicules 100% électriques dans la région Île-de-France.
Et alors, est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce que vous avez eu beaucoup de ventes depuis le mois de mai ?
À la fin d'année, on aura vendu 600 véhicules. C'est moins que l'objectif qu'on s'était fixé avant le confinement. Il était très haut, il était de l'ordre de 2500 véhicules. Mais comme il y a eu le confinement qui a amené une chute de marché globale de 25%.
L'ensemble des voitures.
Hein. Ouais, sur l'ensemble du marché français, on aurait souhaité faire plus, bien évidemment.
MG pense continuer à se développer en France ?
Alors, MG donc est une marque qui avait quitté le marché français en 2005. Et qui a décidé de renaître totalement verte, 100% électrique dans un premier temps, et maintenant le plug-in hybride, et aucune offre thermique. Et MG a créé une filiale en France, il y a quelques mois, et déploie aujourd'hui un réseau de concessionnaires partout en France.
Donc c'est une entreprise anglaise, une marque anglaise, fabriquée en Chine, il me semble. Hein.
Alors effectivement, par SAIC, qui aujourd'hui est le plus grand constructeur chinois, qui fabriquent 7 millions de voitures en Chine tous les ans. En 2019, ils ont dû fabriquer et vendre plus de 240 000 véhicules électriques, ce qui à l'époque était supérieur au marché européen de véhicules électriques.
Qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi ça klaxonne ?
Parce que la clé, ils l'ont bougée, ils n'ont pas mis la clé dessus. Donc il faut qu'ils retrouvent la clé, je ne sais pas où ils l'ont mise, mais ça va, ça va là.
Voilà, ça s'arrête.
Aujourd'hui, en Europe, les voitures électriques fabriquées en Chine, ça n'est presque rien. C'est 0,6% de toutes les ventes. Mais les spécialistes pensent que la situation va rapidement changer. Il y en aurait 70 fois plus dans 4 ans. C'est ce que dit l'institut de référence EV Volume. Et alors, le Made in China ne se verra pas forcément derrière des marques chinoises, mais portera la marque MG donc, mais aussi Renault, Tesla, Daimler, c'est-à-dire Mercedes. Dans le sens inverse, on voit aussi des fournisseurs chinois qui viennent s'installer en Europe. Par exemple, Sylvie Ouziel, elle est la directrice internationale du groupe chinois Envision, qui a l'ambition d'ouvrir une usine en France fin 2023.
Oui, alors nous avons pour projet effectivement d'ouvrir une usine de batteries en France pour produire des batteries pour les véhicules électriques. On parle de gigafactory, c'est-à-dire d'énormes usines qui montent en puissance progressivement, qui montent en puissance entre 2023, début 2024 et 2027. Et on parle de 1 000-2 000 emplois et d'un investissement qui est de l'ordre du milliard. Oui.
Mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas comme tout le monde, j'ai envie de dire, c'est-à-dire de les faire fabriquer en Chine ou en Asie en tout cas, et puis ensuite de les exporter en France ?
Alors en fait, historiquement, il est vrai que la production de batteries était surtout faite en Asie parce que le marché était là. La Chine a adopté le véhicule électrique plus massivement plutôt que les États-Unis ou l'Europe. Maintenant, le marché en Europe se développe en raison de la volonté politique, des incitations. Donc le marché se déplace et on voit des constructeurs relocaliser des usines plutôt en Europe de l'Est, mais plus près de leur marché, pour être plus réactifs et aussi pour minimiser les frais logistiques et être plus compétitifs.
Est-ce que vous pensez que le fait que vous soyez, que vous allez être fabriqué en France, c'est un argument
ou pas? Nous pensons que le véhicule électrique sur la route qui n'émet plus lorsqu'il roule, c'est important, mais il faut regarder toute la chaîne. Il faut regarder l'électricité qu'il utilise, il faut regarder comment sa batterie a été produite et approvisionnée et transportée et comment elle va être recyclée ou comment on va lui donner une seconde vie après qu'elle a été utilisée dans le véhicule. Et donc pour faire tout ça, la proximité de l'usine avec ses marchés est importante. Pour éviter d'émettre lorsqu'on transporte, pour éviter d'avoir produit avec une énergie qui elle-même n'est pas décarbonée, et puis pour être capable d'avoir toute la chaîne qui va récupérer la batterie, lui trouver une deuxième vie, la réparer, et puis la recycler en fin de vie, au plus près.
Sauf que Sylvie Houziel, les salaires en Chine, notamment, enfin et en Asie plus généralement, sont quand même beaucoup plus faibles. Est-ce que vous pensez que vous arriverez à être suffisamment compétitive du coup en étant en Europe et en France?
La main-d'œuvre est un des éléments du coup, mais pas seulement. Il y a évidemment la logistique, l'énergie. Par ailleurs, la main-d'œuvre qualifiée fait l'objet de tensions en Asie comme en Europe de l'Est, en Pologne par exemple, où beaucoup d'usines se sont implantées. Et donc, quand on a pesé l'ensemble des facteurs, y compris logistique, coût de l'électricité, coût et compétences et productivité de la main-d'œuvre, ainsi que effort d'accompagnement en termes de formation de l'État français et des collectivités locales, la France ressort extrêmement compétitive.
Le fond du sujet, c'est l'emploi industriel. Avec les voitures made in China, quel est le risque pour les usines en France? Est-ce qu'il faut vraiment redouter un tsunami chinois comme ce qui s'est passé pour le pneu? Et comment l'éviter? Nicolas Meillant est conseiller scientifique à France Stratégie. Il est le co-auteur d'un rapport sur les politiques industrielles de la France.
Juste quelques chiffres. Pour la construction automobile, l'emploi a été divisé par deux depuis 20 ans. On est passé de 200 000 personnes en France à 100 000 personnes. Donc il est encore temps d'inverser la courbe. Parce que si rien n'est fait et qu'en 2040, nous devons acheter que des voitures électriques, il n'est pas impossible que toutes ces voitures soient fabriquées en Chine. On était protégés, notamment des Chinois, par des normes
environnementales.
Normes environnementales sur les émissions de polluants, des moteurs thermiques, et puis aussi des normes de sécurité passive. Donc quand on a un crash en voiture, on se souvient tous du SUV chinois qui avait eu un test et tout ça, c'était très très mal passé. Sauf que quand vous avez une voiture électrique, plus de pot d'échappement, plus d'émissions de polluants, donc cette première barrière saute. Et puis le moteur électrique est beaucoup plus compact que le moteur thermique, et donc pour la sécurité et les chocs, c'est beaucoup plus facile de respecter les normes avec une voiture électrique qu'avec une voiture thermique. Et donc, on doit mettre en place d'autres barrières pour protéger les 13 millions d'emplois induits de l'automobile en Europe. Qu'est-ce qu'on pourrait faire par exemple? Alors, on entend beaucoup parler de cette fameuse taxe carbone aux frontières, dont on parle depuis une vingtaine d'années, et qui pour l'instant n'a pas vu le jour. Nous, ce qu'on a proposé avec France Stratégie, c'est plutôt de mettre une norme, puisqu'on sait que les normes fonctionnent, sur, par exemple, le contenu carbone de l'électricité utilisée pour fabriquer ces voitures vertes et leurs batteries, en disant, si tu veux pouvoir vendre ta voiture en Europe, il faut que l'électricité, son contenu carbone, soit inférieur à 100 grammes, par exemple, du kilowattheure. Ou, si tu veux bénéficier des subventions, 6 000 euros de subventions, il faut que ta voiture ait été fabriquée avec de l'électricité décarbonée. Ça veut dire que vous pouvez la fabriquer où vous voulez, vous pouvez la fabriquer en Chine, mais alors il faudra compenser vos émissions de CO2 en rachetant des certificats pour pouvoir la vendre.
2021, faut-il redouter l'offensive européenne des voitures made in China? C'était le reportage d'Anaël Verzo.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Et l'invité du Mag'Écho, c'est le président de Renault. Renault qui vient de présenter sa nouvelle feuille de route. Bonjour Jean-Dominique Senard.
Bonjour.
On va parler de ce plan, de votre nouvelle stratégie, mais d'abord vous avez entendu le reportage. Le déferlement de produits chinois en Europe, vous l'avez vécu quand vous étiez à la tête de Michelin avec le pneu. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Dominique Senard, vous le redoutez pour l'automobile?
Pour tout vous dire, ce n'est pas une surprise pour moi. Je l'avais évoqué déjà souvent en disant que nous sommes en face d'une situation nouvelle. Le véhicule électrique chinois arrive en Europe, c'est clair. On l'a vu de ces dernières semaines. Je crois que ce que j'avais pu dire il y a quelques mois est en train de se vérifier. Pour autant, faut-il en avoir peur? Je ne crois pas, si vous voulez. Typiquement, Renault a l'intention d'inverser la tendance et d'assurer que nous sommes capables de produire beaucoup de voitures électriques en Europe, en particulier en France. Le sujet du plan que vous avez évoqué, que nous venons de rendre public, est là. Il s'agit de remettre en France une capacité de production significative, en particulier dans le nord du pays, et en particulier de véhicules électriques. Nous avons l'ambition de produire près de 400 000 voitures électriques en France d'ici quelques années, et on a bien l'intention d'y arriver.
Près de 400 000, on va en parler, mais il faut quand même préciser que vous dites cela, et en même temps vous faites partie du processus, c'est-à-dire que quand la Dacia là, qui doit arriver, qui doit être le véhicule électrique, qui veut être le moins cher sur le marché, la Dacia, elle doit être fabriquée en Chine, elle appartient à la galaxie Renault. C'est-à-dire
c'est juste.
Vous dites, mais je veux maintenir l'empreinte industrielle, et pourtant vous importez.
Oui, parce que c'est une question de temps, si vous voulez. Aujourd'hui, il faut presque s'enorgueillir d'avoir une voiture à la marque du groupe Renault qui soit vendue en Europe, et que ce ne soit pas que des marques chinoises qui vendent des véhicules électriques en Europe. C'est une bonne nouvelle, j'allais dire, mais c'est temporaire. C'est-à-dire que l'avenir n'est pas là. L'avenir pour nous, c'est la capacité de fabriquer des véhicules électriques en France. Je suis absolument persuadé qu'on peut y arriver, et c'est l'enjeu. On n'y arrivera pas tout seul. Il faut que notre écosystème nous aide. Toutes les parties prenantes autour de l'automobile en France sont concernées, et ensemble, on va y arriver. Et d'ailleurs, votre reportage tout à l'heure sur l'usine de batterie était très intéressant, car c'est bien ça le sujet. Il nous faut être capable non seulement d'avoir des usines qui soient remplies dans le nord de la France, telles que nous l'avons en tête pour Douai et Maubeuge, mais il nous faut aussi une capacité de fabrication de batterie proche de nos usines, afin que le coût de la batterie, qui est un élément essentiel de la fabrication du véhicule électrique, soit suffisamment abordable pour rendre l'ensemble du véhicule abordable. Parce que j'ajoute une chose, c'est que ces véhicules dont je parle doivent être abordables. Il faut pouvoir vendre des voitures à 20 000 euros ou moins sans les aides. Pour arriver à ça, on en est encore un peu loin. Vous savez qu'un véhicule électrique, c'est très cher, et qu'aujourd'hui, sans les aides des États, il y aurait également de difficultés pour les mettre dans le marché.
En effet. Alors, dans votre nouveau plan stratégique de Renault, il va y avoir au moins 10 véhicules électriques dans les 5 prochaines années. Il va y avoir notamment cette R5 électrique.
Oui, elle est très belle.
Combien seront fabriqués en France?
Écoutez, la R5 électrique a vocation à être fabriquée en France.
Où
c'est typiquement ça. À Douai, exactement, dans le nord de la France, dans cet ensemble que nous appelons le pôle nord, si je puis dire, qui devrait regrouper les usines de Maubeuge et Douai. Dieppe est également dans ce périmètre, mais c'est plus autour d'Alpine. Et avec, au principe, une usine de fabrication de batteries qui serait installée près de nos usines dans le nord. Cet ensemble-là, avec en plus Cléon, qui fabrique les moteurs électriques dans lesquels, vous savez que nous avons importé un moteur qui devait être fabriqué en Chine, nous avons décidé de le fabriquer à Cléon. Tout ceci constitue un ensemble absolument exceptionnel. Je pense que d'ici quelques petites années, nous serons en Europe le centre d'excellence du véhicule électrique.
Est-ce que ça veut dire, on sait que Renault a beaucoup, vous n'étiez peut-être pas à la tête de Renault, mais le Renault a beaucoup délocalisé, a beaucoup fait partir ses modèles, par exemple en Turquie, en Slovénie. Est-ce que dans les années à venir, ce nouveau Renault qui rebondit, il produit plus de voitures qu'avant ou moins de voitures qu'avant en France?
Il va forcément en produire plus, c'est ça l'objectif. Mais dites-vous bien aussi, ce qui compte, c'est la valeur ajoutée des véhicules que nous produirons en France. C'est ça qui compte, plus que le nombre. Il y a une ambition évidente de remplir nos usines en France. Vous savez, je l'avais évoqué déjà au mois de mai, lorsque nous avons annoncé le premier plan qui précédait celui que Luca De Meo vient de publier. J'avais déjà indiqué dans le diagnostic qu'il fallait que nos usines soient beaucoup plus utilisées. Donc l'objectif, il est bien là. Et je crois que la réponse à votre question, c'est oui, c'est ça l'objectif, c'est ça que nous voulons faire, et je pense qu'on va y arriver.
Luca De Meo, justement, le nouveau directeur général de Renault, il a prononcé une phrase surprenante. Il a dit que Renault devait revenir une boîte tech. En fait, une entreprise de technologie qui fait des véhicules.
Oui.
Mais ça, c'est le modèle Tesla.
Oui, mais c'est pas étonnant qu'il ait dit ça. Et d'ailleurs, c'est une forme de vision qui, en fait, reflète exactement l'évolution de l'automobile. Aujourd'hui, nous sommes effectivement une entreprise qui fabriquons des véhicules et nous intégrons de la technologie, et nous voulons inverser cette équation. Pourquoi? Parce que quand vous regardez l'évolution de la mobilité en France, et votre reportage tout à l'heure le disait, pas seulement en France mais dans le monde, vous voyez bien qu'il y a clairement un certain nombre d'écarts par rapport à un idéal qui est en train aujourd'hui de se dessiner. Je prends des exemples. Aujourd'hui, nous utilisons 10% du temps de la voiture. Il y a un problème tout de même. On achète pour 100, on n'utilise que 10. Aujourd'hui, le véhicule perd 50% de sa valeur en 3 ans. C'est juste pas soutenable. Et aujourd'hui, le véhicule est souvent accusé d'être à la source de tous les maux en matière d'environnement. Mmh. Là aussi, ça n'est pas acceptable. Sur ces trois problèmes, nous voulons apporter une solution qui passe par, au-delà de l'automobile, apporter des services aux consommateurs, aux utilisateurs, qui corrigent ces aspects-là. Vous voyez d'ailleurs des tas de tentatives qui commencent à se mettre en place. Renault est d'ailleurs bien placé pour ça. Je pense à tout ce qui est Zity, par exemple. Vous voyez que dans les rues de Paris commence à fleurir cet autopartage. Il y a, au-delà d'autopartage, l'utilisation des batteries, le service autour des batteries, le recyclage, tout le projet que nous avons à Flin, qui est une chose admirable. Flin ne sera jamais fermé. Flin va devenir un centre d'économie circulaire exemplaire en Europe.
Flin ne fabriquera plus, c'est quand même un basculement.
Flin ne fabriquera plus de Zoé neuve. Flin va fabriquer 150 000 voitures recyclées. Et comme on dit aujourd'hui, retrofités, qui vont en réalité sortir de cette usine. Donc, ne disons pas que Flin ne sortira pas des usines, elle va sortir 150 000 véhicules. Mais au-delà de ça, ça va être un centre de recyclage assez exceptionnel, avec en plus des expériences d'innovation extraordinaires. Tout ce qui aujourd'hui est le savoir-faire de Renault va être déployé à Flin. Et je crois que tout le monde a bien compris que nous voulions faire de cet endroit un centre exceptionnel en Europe.
Jean-Dominique Senard, ça c'est la nouvelle stratégie de Renault. On se souvient très bien qu'il y a encore quelques mois, vous espériez marier Renault avec Fiat, l'italien. Aujourd'hui, c'est le mariage de Fiat avec PSA. Quel regard vous portez là-dessus ?
Écoutez, j'étais toujours très positif sur ces questions-là, vous le savez. Je n'ai pas là-dessus donné le sentiment de me plaindre.
Qui est votre actionnaire à 15% qui ne l'a pas souhaité.
Mais c'est sa responsabilité. Mais c'est loin derrière pour moi. Cette histoire-là, c'était l'année dernière. Nous avons depuis largement rebondi. Vous savez, un des atouts de Renault, c'est de faire partie de l'Alliance.
Avec Nissan et Mitsubishi.
Oui, avec l'Alliance et Mitsubishi. Ça représente aujourd'hui ce qui est le quatrième groupe mondial à peu près dans l'automobile. C'est considérable. Nous avons la capacité pour Renault d'avoir accès à un certain nombre de technologies, à un certain nombre de marchés, à un certain nombre de véhicules uniques au monde. Je pense que cette combinaison, telle que nous l'avons reprise, parce qu'il a fallu la remettre sur des rails, pour tout vous dire, elle est aujourd'hui en train de fonctionner merveilleusement. Un seul chiffre, et ça suffira pour comprendre, dans les quelques toutes petites années qui viennent, 80% des véhicules de Renault seront fabriqués sur trois plateformes de l'Alliance. Est-ce que vous vous rendez compte ?
Réduction des coûts, ça, oui.
Oui, ouais, non, ouais. Mais réduction des coûts, mais surtout...
C'est une synergie.
Oui, et puis surtout, je dirais, les pièces seront communes, à une hauteur telle qu'elle n'a jamais existé dans le groupe depuis des années. Voilà la grande affaire, et donc l'Alliance va être un énorme support pour eux.
Alors, dans cette grande alliance, il y a quand même le virus qui vient contrecarrer tous les plans du secteur automobile. Là, on vient d'avoir des nouvelles restrictions, le couvre-feu à 18h, qu'est-ce que vous en pensez, vous, l'industriel ? C'est un moindre mal ?
Écoutez, ce qui compte pour nous, c'est que nous ayons la capacité de maintenir les distributeurs ouverts. C'est la clé.
Les concessionnaires.
Oui, c'est ça. Dans l'automobile, on appelle ça les concessionnaires. Ça veut dire qu'en fait, si nous restons dans le cadre de ce que nous avons connu lors du deuxième confinement, c'est-à-dire que nous avons pu ouvrir les concessions, j'allais dire c'est un moindre mal. Mais c'est indispensable qu'elles restent ouvertes. Voilà. Il faut que le commerce puisse fonctionner, il faut que les stocks puissent s'écouler, il faut que les acteurs qui ont envie d'acheter un véhicule puissent le faire. Et à partir de là, mon Dieu, il est clair que la question de la santé est prioritaire. Vous savez que là-dessus, c'est une question de solidarité. Tout le monde joue le jeu. L'État joue le jeu. Nous jouons le jeu. Et franchement, je dirais que de ce côté-là, il faut que nous soyons totalement solidaires.
Le scénario catastrophe, c'est quoi ? Si je vous comprends bien, c'est le reconfinement.
Un reconfinement qui fermerait l'ensemble des concessions, oui, serait une très mauvaise nouvelle.
Vous avez obtenu un prêt garanti par l'État chez Renault de 5 milliards. Est-ce que... aujourd'hui, vous pensez que ça suffira à passer les turbulences ?
C'est un prêt bancaire garanti par l'État, pour être tout à fait clair. C'est un filet de sécurité. Et nous sommes très reconnaissants à l'État parce que ça a permis, effectivement, d'assurer que nous puissions avoir un développement possible et surtout une capacité de mettre en place le plan que nous sommes en train de faire. Mais pour tout vous dire, tel que je vois les choses aujourd'hui, Renault est en train de remonter la pente, nous sommes en train de générer de la trésorerie, nous sommes en train de rentrer dans une période de remontada, si je puis dire, et je pense que ce filet de sécurité aurait été une assurance, mais que nous allons pouvoir le rembourser aussi vite que possible,
sans avoir
utilisé un sou du contribuable français.
Sans demander de délai ou en demandant un délai ?
Ah non, a priori, on n'a aucun besoin de délai aujourd'hui, non, c'est pas le sujet.
Jean-Dominique Senard, le président de Renault et de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, merci d'avoir été sur France Inter.
Merci beaucoup, merci à vous.
Des questions de vie au boulot. Sandrine Foulon, nous avons Clotilde, elle habite au Plessis-Robinson dans les Hauts-de-Seine. Elle vient travailler à Paris 3 jours par semaine. Alors, avec ce couvre-feu à 18h dont on vient de parler avec Jean-Dominique Senard, est-ce que son employeur peut lui demander à Clotilde de changer ses horaires ?
Clotilde, tout dépend évidemment de ce que dit votre contrat. Si les horaires sont notés noir sur blanc, l'employeur ne peut pas les changer sans votre accord. C'est pareil pour les personnes à temps partiel. C'est logique dans la mesure où on peut travailler le matin pour un employeur et l'après-midi pour un autre. Si tout le monde se met à bousculer les emplois du temps, vous n'allez pas vous en sortir. Si vous n'entrez pas dans ces cases, Clotilde, oui, la direction peut modifier vos horaires, vous demander d'arriver plus tôt pour partir plus tôt, de prendre moins de temps à l'heure du déjeuner. Vous pouvez d'ailleurs vous-même proposer des aménagements d'horaire à l'entreprise, libre à elle d'accepter. En tout cas, pendant cette période de pandémie, il est recommandé d'étaler les arrivées et les départs pour éviter de se retrouver en bande, collés serrés dans les transports en commun, ce qui risque d'être le cas pour tous les employés qui travaillent dans des établissements publics ou dans les magasins. Eux n'ont pas le choix. Vers 17h30, les commerces vont commencer à baisser le rideau. Dès ce soir, dans toute la France, il n'y a que ceux qui proposent de la livraison à domicile qui pourront rester ouverts. Les habitants du Grand Est le savent déjà bien. Le vrai gros souci, Clotilde, ça va être de se montrer très créatif pour faire les courses. Entre Zoom et manger, il va falloir choisir.
Et Sandrine, qu'est-ce qui se passe si l'employeur ne change rien du tout à votre emploi du temps ?
Eh bien, vous rentrez plus tard, comme d'habitude, mais avec dans la poche une attestation de l'employeur. Certains libéraux, comme les soignants, pourront montrer leur carte professionnelle.
Et le dimanche, alors, est-ce que le couvre-feu va pousser les entreprises, les commerces surtout, à ouvrir ce jour-là, Sandrine ?
Le Premier ministre l'a rappelé, dans de nombreux départements, les collectivités ont accordé des dérogations pour l'ouverture des magasins le dimanche. Jean Castex a invité les commerces à s'en saisir. Alors, beaucoup voulaient une simplification des procédures, que ces ouvertures soient accordées automatiquement. Ce sera pas le cas. Il n'y aura pas de nouvelle loi sur le travail du dimanche. En tout cas, pas tout de suite. Mais les possibilités sont déjà multiples et les préfets devraient plutôt se montrer bienveillants. En revanche, tous les commerces ne seront pas forcément preneurs. La mesure coûte cher. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, l'a répété ici, à ce micro. Pandémie ou pas, il y aura de toute façon des compensations financières si un salarié accepte de travailler le dimanche. Le droit du travail continue de s'appliquer.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.